Lire un livre complet. Voilà. Je commence avec ce petit papier pour les nouveaux. Il y a à chaque fois un cours mis par écrit qui sera à disposition. Vous connaissez ce passage dans l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus multiplie les pains. La foule est tellement contente que la conclusion, tout le monde s'exclame, c'est vraiment lui le grand prophète. Voilà, ils ont été miraculeusement nourris dans une zone déserte. Ce n'est pas saint Jean qui nous le dit, ce sont les autres, ce sont les synoptiques. Une foule déserte, de façon miraculeuse, ils mangent le pain, ils disent « c'est Moïse ». Voilà, voilà le prophète qui devait venir. Voilà la parole qu'ils disent, cette exclamation « voilà le prophète qui voulait venir, qui devait venir », c'est la référence à une promesse dans le livre du Deutéronome. « J'enverrai un prophète semblable à toi, comme Moïse, celui qui est rentré dans l'intimité de Dieu et qui a fait sortir le peuple d'Égypte, donc une figure de médiateur. » Et pourquoi, disent-ils, c'est le prophète qui devait venir? C'est que ils ont été nourris pour pas cher, sans avoir à se déplacer. Jésus s'est occupé d'eux, comme Moïse s'est occupé d'Israël dans le désert. Donc ils n'ont pas bien compris le sens de cette référence à Moïse, mais ils ont raison de faire cette référence. Ils fonctionnent comme des juifs, c'est-à-dire des gens qui connaissent les Écritures, qui habitent les Écritures, qui sont habités par les Écritures. Toutes ces figures, elles habitent leur mémoire. On pourrait faire une séance complète sur la question de la mémoire. C'est absolument central chez saint Augustin, la mémoire, l'intelligence, la volonté. L'intelligence, la volonté, comme les deux petites antennes qui nous font aller de l'avant, la mémoire, c'est le substrat, c'est le fond, c'est ce qui nous constitue. Toute la Bible, c'est une mémoire. Voilà. Eh bien, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est habité par une mémoire. Ils ont la mémoire des hauts faits de Dieu dans l'Ancien Testament, de toutes ces figures. Voilà. Même si ceux qui sont dans la zone désertique, qui ont été nourris, n'ont pas bien compris le sens, il n'empêche qu'ils ont bien raison. Pour comprendre Jésus, il faut avoir recours à l'Ancien Testament. Voilà. Alors, il y a Moïse, bien sûr, qui est une des plus considérables. Il y a Abraham, il y a Josué, il y a David, et il y en a bien d'autres. Voilà, tous ces personnages qui préparent l'incarnation. Avec Jésus, ça je m'en expliquerai davantage tout à l'heure, leur rôle paraîtra en pleine lumière. C'est ce qu'on appelle des figures. J'essaierai de vous dire en quoi ça consiste ce terme de figure, quand je parlerai des pères de l'Église. Et nous avons besoin de les découvrir pour comprendre Jésus. On ne peut pas comprendre Jésus si on ne passe pas par ces figures. Il y a donc véritablement un enjeu de lire l'Ancien Testament, et plus particulièrement de voir ces personnages qui nous préparent à l'accueil de Jésus. Et Jésus a recueilli la richesse de toutes ces figures de l'Ancien Testament. Alors je me cantonnerai à quelques-unes d'entre elles. Je vais aller chercher mon programme, parce que j'ai oublié de le prendre. Voilà. Donc je ne sais pas si tout le monde a bien pris la feuille. Donc vous avez le programme de cette année. Il y a eu un choix, parce qu'il y a bien d'autres figures que j'aurais pu sur lesquels j'aurais pu m'arrêter, que ce soit Salomon ou encore d'autres personnages. Voilà, Josué, Isaac, Joseph, Moïse. Voilà. Nous ne pouvons pas comprendre Jésus si en amont nous ne sommes pas familiers de ces figures. Alors, je vous propose ce soir, dans un premier temps, qui sera le plus conséquent, qui sera peut-être le plus exigeant, mais le plus fondamental, de regarder comment fonctionne l'Ancien Testament. Ensuite, ce sera plus rapide, je pense que ça suscitera peut-être moins de questions, la question de l'exégèse des pères de l'Église, puisque nous nous inspirerons de façon un peu indirecte de l'exégèse des pères de l'Église. Donc tout d'abord, l'Ancien Testament, j'ai donné comme titre « Figure et accomplissement » puisque c'est véritablement ce dont il s'agit. Vous remarquerez que pour parler de l'Ancien Testament, je parlerai d'abord de l'Ancien Testament en lui-même, l'Ancien Testament qui nous conduit vers le Nouveau, et en une deuxième partie, eh bien, on ira du Nouveau à l'Ancien. Voilà, on commence par de l'Ancien au Nouveau et ensuite du Nouveau à l'Ancien. Comme ça, c'est, j'espère, suffisamment clair. Voilà, essayons d'explorer un petit peu l'Ancien Testament. Comment fonctionne-t-il? Avec ces grands principes, je l'ai dit, qui seront beaucoup plus théoriques, mais je vous rassure, les fois suivantes, nous entrerons dans le vif du sujet, nous irons dans le ventre de la baleine, c'est promis, nous passerons à travers les eaux du Jourdain, c'est promis, hein, nous irons en haut du Sinaï, dans le feu et les éclairs, c'est promis, ça va être absolument palpitant. Hein. Voilà, ce soir, ça le sera moins, mais un peu comme avant d'aller faire une marche dans le désert, on a hâte d'être dans le désert, avant, ben, on a les consignes, on nous dit qu'il faut acheter, je m'en souviens, il fallait acheter des bouteilles de soda, d'eau sucrée, parce que ça permettait de tenir 3 litres, hein, il fallait 3 litres au moins, hein, des trucs, voilà, le bob, etc. Tout ça, c'est les indications. Bien, bon, on y va. Alors, j'espère qu'à la fin de la séance, vous direz, allez, on y va. Hein, voilà. Donc, nous commençons par ces consignes pour lire l'Ancien Testament. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tout d'abord, oui, j'ai fait un grand titre, un sous-titre et un sous-sous-titre. La promesse. La promesse, c'est véritablement le grand axe de toutes les Écritures. Hein, ça, je crois qu'il faut vraiment le comprendre d'un point de vue théologique, d'un point de vue biblique et théologique. L'Ancien Testament est traversé de part en part par une promesse de bénédiction. La bénédiction court à travers toute la Bible. Et quand Dieu bénit, c'est pas uniquement pour dire « mon petit gars, t'es quelqu'un de bien, hein, je te bénis », c'est-à-dire « je bénis ce que tu fais ». Non, cette bénédiction, elle est aussi une promesse. Elle est exprimée dès le livre de la Genèse, hein, quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit « allez, emplissez la terre ». Donc, ceux qui sont à l'image de Dieu vont porter l'image de Dieu sur toute la terre. Hein. C'est une promesse parce que ça va courir à travers l'histoire. Et cette promesse va se nouer, se cristalliser, hein, devenir, prendre corps à travers, évidemment, le personnage capital. Capital, le terme est tout à fait volontaire. Donc, capital, il y a caput, la tête, hein, celui qui est au départ, Abraham. Abraham. C'est une bonne question que je pourrais vous poser si on faisait un devoir par écrit. Hein, qui est le plus important entre Abraham et Moïse, hein? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment la réponse parce que l'un et l'autre sont absolument capitaux, mais pas dans les mêmes domaines. Hein. Ça sera peut-être une question que nous pourrons aborder, une question qui est passionnante. Hein, Abraham, c'est vraiment la grande figure, c'est avec lui, hein, par là où je t'indiquerai, je vous l'avais dit déjà il y a 2 ou 3 ans, quand on avait fait la Genèse, Dieu ne dit pas le pays où Abraham doit aller. À quel endroit doit-il aller? Là où Dieu lui dira. Donc ça veut dire vivre de la parole de Dieu. Hein, son destin, son avenir, c'est de vivre de la parole de Dieu. Et il est porteur de cette promesse. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. Hein. Tu porteras cette bénédiction, tu seras porteur d'une bénédiction. Tout le thème de la bénédiction qui va courir dans l'histoire des patriarches, qui est vraiment l'histoire, la matrice de l'histoire d'Israël. Le peuple d'Israël, le peuple juif, c'est un peuple dont la spiritualité est axée sur la bénédiction, bénédiction reçue de Dieu, et un juif, c'est quelqu'un qui bénit. Hein. Le terme même de juif, c'est la louange, hein, ce sont les louangeurs, les juifs, hein, le louangeur. Hein. Ils bénissent Dieu, mais parce qu'ils ont reçu de lui cette bénédiction. Donc là, on a un sujet théologique tout à fait central et qui va, vous pouvez, quand vous lisez les Écritures, avoir en arrière-fond, même si ça n'apparaît pas immédiatement, cette idée que Dieu vient bénir son peuple. Et bénir, ça veut dire avoir une vraie influence de transformation de grâce. Voilà. À partir d'Abraham, on entre dans une histoire, hein, comme le dit le cardinal Lustiger, il y a histoire quand il y a appel. Dieu appelle Abraham, sinon il n'y a qu'une succession d'événements. Hein. Aujourd'hui, dans notre société, on exclut Dieu, on ne voit plus trop comment il peut y avoir d'histoire. Il n'y a plus d'appel, il y a des événements qui se suivent. Hein. Pour qu'il y ait histoire et pour qu'il y ait cohérence dans les événements, il faut un appel. Et donc, cet appel adressé à Abraham va enclencher un processus de promesse et d'accomplissement. Et l'Ancien Testament raconte les étapes de ce projet divin. Il y a un progrès continu dans l'Ancien Testament, un progrès continu, un dynamisme interne, une poussée vers un accomplissement à venir. Pour ça qu'il faut, quand les gens vous disent « Ah, les Juifs et les chrétiens, vous avez tel texte », épouvantable parce qu'on va massacrer des gens, ou je sais pas quoi. Ben oui, oui, on massacre des gens. On ne dit pas que c'est bien, mais ça fait partie de l'histoire. Il y a une histoire où Dieu se révèle et il fait la promesse, par exemple, qu'un jour il y aura la paix, la promesse qu'un jour il y aura que les hommes, il n'y aura plus le péché dans le cœur des hommes. Mais il faut du temps, il faut du temps, il faut des étapes. Hein. Et donc, voilà, il y a ce dynamisme interne. Je reprends le terme de pousser vers un accomplissement à venir. Hein. C'était le cardinal Ratzinger qui avait écrit un texte très intéressant sur le sujet. Qui disait qu'on le veuille ou pas, on sent qu'il y a une espèce de mouvement, un dynamisme intérieur à l'Ancien Testament. On ne peut pas le lire de manière plate. Hein. Et cette poussée vers un accomplissement conduit à parler d'un caractère prophétique de l'Ancien Testament. Hein. Un caractère prophétique de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament a un caractère prophétique. Même dans des textes de loi, même dans des psaumes qui n'annoncent pas forcément un avenir, qui sont juste une louange, il y a une prophétie. Hein. Évidemment, cette poussée, ce dynamisme interne, cette prophétie, hein, tout cela va aboutir en Jésus, hein, qui trouve son accomplissement définitif. Ce que dit un chrétien, qu'un juif ne dira pas ou pas de la même manière. Hein. Ce serait intéressant d'avoir un rabbin qui vienne nous expliquer ce sens de la prophétie pour les juifs. Mais les chrétiens pensent être fidèles à l'Ancien Testament quand ils disent qu'il y a cette poussée prophétique de l'Ancien Testament. Ceci, j'allais dire, c'était la thèse. Voilà, c'est là, je pose une thèse, ça veut dire on pose une affirmation. Une sorte de postulat et voilà. Et bien maintenant, je vais essayer d'interroger, de revenir sur cette question de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie dans l'Ancien Testament? C'est une question importante. Qu'est-ce que c'est que la prophétie dans l'Ancien Testament? C'est vraiment une question capitale, parce que ça veut dire que les événements qui se déroulent ont une signification. Sinon, on est dans Dieu qui intervient comme ça, directement, mais il n'y a plus d'histoire sainte, et pour nous, nous n'avons plus notre place. Donc la prophétie, elle nous dit quelque chose, il faut que nous comprenions de quoi il s'agit. Pour nous, les prophètes, un prophète, si vous ne regardez pas votre feuille, allez, qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Ne regardez pas votre œil. Okay, moi, à la paroisse, je fais un cours comme ça, je pose des questions, et puis la personne, elle a toujours la bonne réponse. Alors, ben, j'ai dit, ben oui, mais vous lisez votre feuille. Ben oui, mais c'est marqué. J'ai dit, ouais, vous lisez pas. Vous lirez après. Voilà. Celui qui prédit des événements à venir.
Quelqu'un qui annonce la parole de Dieu.
Un messager de Dieu.
Quelqu'un qui annonce quelque chose. Celui qui dit la volonté de Dieu au présent. Alors je vois que dire le terme au présent signifie qu'il y a déjà eu une réflexion sur le sujet. Et de fait, les premiers prophètes, c'est ceux, ils n'ont pas l'idée d'un avenir, ils ont l'idée de dire le prophète. C'est celui qui vient taper sur l'épaule du roi en disant « Hé, le roi, il y a un vrai roi, il est au ciel. Obéis à la loi, tu es en train de désobéir, c'est ça un prophète. Hein, » Vous lisez Amos. Vous lisez le prophète Amos, vous lisez le prophète Michée, et le roi, il dit, fiche le camp, je ne t'ai pas appelé. Il dit, moi, j'ai rien demandé. Hein, moi, j'étais piqueur de sycomore. Hein. Voilà, j'étais piqueur de sycomore. Parce que donc, moi, j'étais vraiment, mais je ne voulais pas, mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire, sois obéissant à la loi. Hein, prophète, c'est ça le prophète, c'est d'abord ça. Hein. Ce n'est pas celui qui annonce qu'il se passera quelque chose. Si c'était le cas, alors là, évidemment, on peut comprendre l'Ancien Testament comme un ensemble d'oracles, il va se passer ceci, il va se passer cela. Bon, une fois que ce qui était annoncé est arrivé, quelle est l'utilité des prophéties ? Une fois que Jésus est venu, ben, il n'y a plus besoin. Enfin, je sais pas. Quand on annonce qu'il va y avoir, je ne sais pas quoi, qu'il va y avoir une éclipse solaire, donc il y a des annonces de l'éclipse solaire, aujourd'hui, quand vous étudiez l'histoire des astres et tout, vous n'allez pas forcément vous intéresser aux annonces de l'éclipse solaire. Vous allez voir comment ça a fonctionné, l'éclipse solaire. Ce qui est intéressant, c'est l'éclipse solaire. Les annonces, elles n'ont de sens que par rapport à l'événement. Les annonces, c'est une fois qu'elles sont passées, c'est fait. Hein. Or, la prophétie de l'Ancien Testament, si c'est le cas, ben, on comprend que les chrétiens dans les premiers siècles, dès le premier siècle, ils auraient abandonné l'Ancien Testament. Or, pourquoi ils l'ont gardé ? Parce que l'Ancien Testament a un caractère prophétique, parce que la prophétie nous dit l'actualité de la parole de Dieu, Dieu qui intervient de manière réelle. Il y a une histoire qui a sa propre consistance. La prophétie n'est pas une méthode d'information sur l'avenir. Il faut bien le comprendre. La prophétie n'est pas une méthode d'information sur l'avenir. La Bible ne traduit pas une chose. La Bible ne se contente pas de nous dire des choses que nous devrions savoir. Ce n'est pas une somme de phrases plus ou moins énigmatiques. Un jour, on arrivera à comprendre. Non, la Bible traduit une expérience historique. La Bible traduit une expérience historique. Toute la Bible renvoie à une histoire. Et ça a été repris par des grands théologiens, des grands exégètes, le cardinal de Lubac, qui a commenté le texte du concile Dei Verbum sur la parole de Dieu, a bien résumé ça en disant « Dieu se révèle dans une histoire ». Dieu se révèle dans une histoire, non pas dans des phrases, non pas dans des textes, mais dans une histoire. Alors évidemment, la Bible, les textes, les phrases ont une place. Ils ont une place. Mais ce qui est central, ce qui est capital, c'est d'abord une histoire. L'histoire du peuple d'Israël. C'est à travers les événements que Dieu se révèle. Dieu s'est engagé dans l'histoire. Ça, c'est le propre du judaïsme et du christianisme. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Sinon, la trace d'un appel de Dieu dans l'histoire qui subsiste. Pour ça que nous croyons que le peuple juif reste le peuple choisi par Dieu, parce que Dieu ne renie pas sa parole. Voilà. Donc Dieu passe à travers une histoire, à travers l'histoire d'Israël. Il a bousculé le cours de l'histoire. Il a bousculé le cours de l'histoire. Vous connaissez la phrase de Léon Blois, le peuple juif barre le grand fleuve de l'histoire de l'humanité pour en élever le niveau. C'est très beau comme image. Quand on voit Abraham, quand on voit Moïse, quand on voit la loi de Moïse, quand on voit les psaumes, quand on voit toute l'histoire d'Israël, tout l'Ancien Testament, on se dit ben, il y a quelque chose qui s'est passé et on s'en rend bien compte, même si c'est quelquefois de façon paradoxale ou douloureuse, mais il s'est passé quelque chose à travers tout l'Ancien Testament. Dieu a bousculé l'histoire. Il y a eu des événements dont la valeur n'était pas uniquement, c'était pas uniquement un exemple. Purement théorique, la vocation d'Abraham, l'élection d'Israël, la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est des événements qui ont changé le cours de l'histoire. La parole de Dieu, alors je pourrais faire aussi tout un chapitre sur le mot de parole, en hébreu c'est la davar, davar, mais même quand c'est Dieu qui parle, amar en hébreu, la davar c'est beaucoup plus forte, la davar ça veut dire une parole événement, à tel point qu'il y a un moment on dit Isaïe, Isaïe se tourna. Il regarda derrière lui et il vit la davar. Il voit la parole, tellement la parole prend corps. C'est très fort comme expression. On le retrouve dans l'Apocalypse. Jean vit une parole, il voit une parole. Dans la Bible, la parole de Dieu, elle prend corps, elle est agissante, ici et maintenant. Comme le rappelait Laetitia tout à l'heure, voilà, c'est une parole prophétique qui agit ici et maintenant. Une parole efficace et vraie. Très important, une parole efficace et vraie, même si Israël ne la comprend pas et y est infidèle. C'est pour ça que les prophètes sont là pour rappeler sans cesse. Tu es infidèle à la parole, mais la parole, elle demeure vivante. Et elle t'appelle à rester fidèle au Seigneur. Il y a cette découverte pour Israël que la parole de Dieu agit. Ce que j'ai dit, je le fais. Et même dans les moments de crise, même dans les moments où Israël se sent abandonné, où Israël est écrasé par ses ennemis, Dieu ne ment pas. J'aime bien rappeler que le mot vérité dans l'Ancien Testament, c'est le même mot que fidélité. Dieu est fidèle à sa parole. Émet en hébreu. Pour nous, la vérité, quelque chose de conceptuel. Dans l'Ancien Testament, le mot vérité, quand vous avez le mot vérité, c'est émet, et ça veut dire aussi fidélité. Dieu est fidèle à lui-même. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est quand il n'y a pas d'écart entre la chose dite et la réalité. Oui. Donc, l'Ancien Testament, c'est cette histoire où Dieu s'engage. Voilà. Et si on regarde de plus près les événements, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une succession d'événements, chaque événement constitue un accomplissement partiel qui en prépare un autre. Dieu appelle Abraham, donc Abraham se met en route et il arrive dans la terre que Dieu a promise. Donc c'est un accomplissement. Je t'ai promis que je te donnerai cette terre. Mais Abraham découvre qu'en réalité, il y aura une autre terre, peut-être surtout quand le peuple va être exilé. Que Dieu affermira sa promesse, que peut-être qu'on va passer à un niveau de compréhension supérieur. Quand Dieu va choisir David, il va montrer qu'il y aura une autre royauté, qu'il y aura un autre roi. Alors on va voir arriver Salomon, le sage. mais il y a peut-être encore le fils de David. Qui sera le fils de David? Et petit à petit, on verra hein, se constituer cette promesse, enfin, se révéler cette promesse. Hein. Chaque accomplissement, hein, quand Dieu a dit quelque chose, il le fait, eh bien, on se rend compte qu'on peut aller encore plus loin, hein, vers un accomplissement définitif. Les prophètes ont compris cette question, la fidélité de Dieu, qui accomplit ce qu'il dit, et à chaque accomplissement, qui conduit son peuple petit à petit vers un accomplissement plus complet. C'était une grande question, à un moment où le peuple d'Israël a été envoyé en exil hein, par les Babyloniens, au VIe siècle, vous savez que c'est un grand événement, hein, qui est tout aussi important que l'Exode. On connaît l'Exode. Mais on pourrait presque dire qu'il n'y aurait pas eu de Bible s'il n'y avait pas eu l'exil à Babylone, parce que à ce moment-là, les prophètes qui étaient à Babylone ou qui vivaient à ce moment-là, comme Ézéchiel hein, ou le Trito Isaïe, d'ailleurs le deuxième Isaïe plutôt, deuxième Isaïe, ils ont dit ben il y a eu des événements dans le passé. Dieu avait fait une promesse et Dieu a tenu sa promesse. Il avait dit à Abraham, je te donnerai la terre de Canaan. Et puis, nos pères ont été envoyés en Égypte. Eh bien, Dieu a ramené nos pères sur la terre de Canaan qu'il avait donnée à Abraham. Donc, sa promesse s'est accomplie, puisque 430 ans après cette période d'esclavage, Dieu a libéré le peuple d'Israël à main forte et à bras étendus. On a vu ça l'an passé à propos de l'Exode. Donc, si nous réfléchissons sur l'histoire passée, nous voyons que Dieu a bien dit ce qu'il avait promis. Hein, on pourrait dire pareil par rapport à l'histoire de la royauté. Hein, Dieu avait dit que c'est lui le roi, mais il a accepté qu'on ait un roi, il n'abandonnerait pas la royauté. Eh bien, Dieu n'a pas abandonné la royauté. Tout ce qu'on relit dans l'histoire, on voit que Dieu a tenu sa promesse. Si c'est comme une règle, une interprétation hein, de l'histoire passée, ce que Dieu a promis, il l'a réalisé, eh bien, il nous a promis que jusque dans notre exil, il ne nous abandonnera pas. Donc, il nous libérera de l'exil. Et c'est ce qui va se passer, de fait. Hein, c'est là qu'on va arriver le deuxième Isaïe, le second Isaïe, qui dit, dans le désert, préparez un chemin pour le Seigneur. Hein, ça vous dit quelque chose, hein, ce qu'on entend au début de l'Avent. Hein. Donc, à ce moment-là, on comprend que si Dieu a de la suite dans les idées, et donc, il y a un avenir. Il y a un avenir. Et c'est là que la prophétie commence à annoncer l'avenir, en raison du passé. Parce que le passé, on voit que Dieu est fidèle. Et donc cette fois-ci, on est dans la situation la pire. Parce que la destruction du temple, ça veut dire qu'on ne peut plus louer Dieu. Donc ça veut dire que si la louange est plus possible, c'est que le peuple est mort. C'est le moment où on a commencé à réfléchir sur la mort. Le traumatisme de l'exil à Babylone a été terrible. Revenir de l'exil, ça ne pouvait être qu'une résurrection. C'est le moment où on a commencé à parler de résurrection. Donc, on commence à se rendre compte que Dieu ira jusqu'au bout de sa promesse et que ça ira jusqu'à retour sur la terre et ça ira encore plus loin. Ce sera la résurrection pour le peuple. Ce sera une vie totalement nouvelle. Alors, je vais un peu vite en besogne puisque la question de la résurrection, il faudra encore beaucoup de temps pour arriver à comprendre, mais vous voyez le dynamisme, c'est au moment de l'exil qu'on comprend que la prophétie, ce qu'est la prophétie, l'annonce d'un salut à venir. Mais il a fallu d'abord expérimenter que la parole de Dieu était efficace et que Dieu accomplissait ce qu'il disait. Tout ça veut dire que l'engagement de Dieu dans l'histoire d'Israël n'a pas été quelque chose de formel. C'est pas uniquement des idées. On a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui. On a une spiritualité, alors on cultive l'intériorité, c'est très bien. Hein, mon Jésus dans mon cœur, voilà, c'est une espèce de piété qui est très 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 centrée sur le cœur. Vous savez, on dit Jésus est vivant, mais il est vivant au fond de ton cœur, d'accord. Hein. Dans la Bible, Dieu est vivant parce qu'il a choisi un peuple, parce qu'il l'a ramené sur sa terre, parce qu'il a réuni les tribus qui étaient dispersées. Oui. Donc, l'engagement de Dieu dans l'histoire d'Israël, ça n'a pas été quelque chose de formel. Dieu est entré dans l'histoire. Et ça veut dire que son œuvre de salut était déjà en route. C'est très très important. Et c'est pour ça qu'on garde l'Ancien Testament. Ce ne sont pas que des annonces. C'est déjà le salut qui est en route. Israël a été appelé par Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Et ce salut qui est vécu de manière partielle, encore imparfaite par un peuple marqué par le péché, un jour, ce salut sera total. Et c'est en voyant comment petit à petit le Seigneur agit que Israël, un jour, pourra accueillir la totale nouveauté du Christ. La nouveauté du Christ, c'est que le salut sera parfait et définitif, et ce ne sera pas uniquement un salut pour Israël, mais aussi un salut pour tous les hommes. Au départ de la promesse, je vous ai dit que c'était qui ?
Abraham.
Et qu'est-ce que Dieu a Abraham ? Il y a une bénédiction pour toi et à travers toi, ta descendance, et par ta descendance, toutes les nations de la terre. C'est ce qui va se passer avec Jésus, quand il va dire aux apôtres maintenant, annoncer l'évangile à toutes les nations, en étant passé par ce goulot étroit du peuple d'Israël. Dieu a de la suite dans les yeux. Et Marie l'a bien compris, parce que quand elle accueille la naissance de Jésus, elle dit, le Seigneur se souvient de la promesse qu'il avait faite en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Ouais, Dieu a de la suite dans les idées. Et Marie, qui est la meilleure lectrice des Écritures que l'histoire n'a jamais eue, hein, c'est la meilleure exégète, Marie, une vraie juive. Elle sait que... Ah, c'est une juive, Marie. Elle sait que Dieu a de la suite dans les idées. Il a promis quelque chose à Abraham. Et ça y est, le temps est arrivé du parfait accomplissement. Et donc, elle va le chanter le Magnificat. Voilà. Pour résumer, nous pouvons dire que les annonces des réalités à venir ne sont pas contenues d'abord dans des textes. Autrement dit, la Bible, ce n'est pas Nostradamus. D'accord ? Je n'ai pas lu Nostradamus, mais j'ai lu des articles. Voilà, c'est des débuts d'articles, parce que le reste ne me donnait aucune envie. Voilà. Hein, des textes mystérieux qu'on va essayer de décrypter. Ce n'est pas ça. La Bible, c'est un rapport entre le texte et l'histoire. Et un rapport entre le texte et l'histoire. Dieu se dit dans les réalités historiques sans cesse interprétées. Et c'est pour ça qu'on a le texte. On a une histoire qui va être écrite et réécrite et qui va renvoyer à une histoire, une nouvelle promesse, un nouvel accomplissement. Voilà. Un va-et-vient entre le texte et l'histoire. Le rapport entre les prophéties dont on a parlé, les prophéties et Jésus, ce n'est donc pas un rapport entre une annonce, j'allais dire abstraite, et un événement historique, mais c'est un rapport entre un événement historique et un autre événement historique. Il y a de l'histoire concrète dans l'Ancien Testament. Ouais. Nous, dans notre tête, on passe d'une annonce verbale à un accomplissement. Dans l'Ancien Testament, on passe d'une réalisation historique à une autre réalisation. Et tout ça, c'est la même histoire, ce qu'on appelle l'histoire de salut, une histoire homogène. Quand on lit l'Ancien Testament, on ne va pas uniquement chercher des preuves que Jésus est le Fils de Dieu, ou des annonces, comme au Nostradamus, mais on va chercher déjà Dieu dans l'histoire qui, petit à petit, s'approche de son peuple, hein, jusqu'à le transformer au fond de son cœur. Alors j'en arrive à la question des figures de l'Ancien Testament, donc ces fameux personnages. Je vais redire un peu la même chose. Hein, là, nous avons passé le cap de la partie la plus difficile. Hein. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps à la fin, mais vous mettez vos questions, puis on verra la fois suivante. La question des figures, là, j'ai parlé surtout des événements historiques. Au milieu de ces événements historiques, il y a bien sûr des personnes concrètes qui annoncent le Christ. Et on est habitué à chercher dans l'Ancien Testament des figures qui annoncent le Christ. Qui annonce le Christ, à votre avis, dans l'Ancien Testament ? Quelles sont les figures ? Alors, il y a Jean-Baptiste, lui, c'est au sens où, verbalement, il dit, voilà, c'est lui. Alors, Isaïe, assez intéressant, très intéressant. Alors, Isaïe, il le fait comme prophète, il écrit des textes. Mais là, je vous parle de personnages de l'Ancien Testament. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Abraham annonce Jésus ? Ça, c'est une question. Alors, il parle de lui. D'accord. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, il y a ceux qui parlent de Jésus, et il y a ceux qui ne parlent pas du tout de Jésus, mais qui, dans leur existence, vivent déjà quelque chose de ce que vivra Jésus. Vous voyez ? Par exemple, quand Isaïe, quand David est persécuté par Saül, David ne dit pas « un jour, il y aura un Messie, un fils de David ». mais il est persécuté. Jusqu'au bout. Il est persécuté. Donc ce n'est pas dans les paroles de David qu'il est la figure, mais c'est dans sa vie, en tant qu'il a été persécuté. Vous voyez ? Et c'est ça, les auteurs bibliques, ils vont dire, regardez l'histoire de David, il a été persécuté. Pourtant, il a été choisi par Dieu. Il était oint. Il portait une onction. C'est la figure du Christ qui, même dans la persécution, ne va pas perdre cette onction pour régner, non plus simplement sur Israël, mais sur toute l'humanité. David, c'est une réalisation partielle, réelle. On a vu dans Israël, c'est vraiment lui qui était oint, qui était Mashiach, oint, le Messie. Eh bien, Jésus, lui, de nouveau, il va être persécuté comme l'a été David dans le désert. Mais seulement Jésus, lui, cette onction va le saisir totalement et il va apporter le salut pour tout le peuple. Alors, une figure, c'est ça. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va raconter des choses, comme Isaïe. Abraham a vu mon jour. Alors, c'est un rapport un peu différent. Mais ce sont des personnages. Quand on voit le personnage, c'est comme s'il y avait Jésus par derrière. Quand le personnage vit, on voit Jésus. On voit Jésus. Quand vous voyez Moïse qui donne la loi dans le Nouveau Testament, vous allez... Attendez, je vais vous raconter le début d'un livre. Je ne dis pas si c'est l'Ancien ou Nouveau Testament. Un personnage qui monte en haut d'une montagne. Il ouvre la bouche et il énonce la loi donnée par Dieu. Moïse, vous avez raison. Et en même temps, j'ai repris presque les termes de l'évangile de Matthieu qui parle de Jésus au début du sermon sur la montagne. Donc le juif qui est sur la montagne avec Jésus, quand il voit Jésus qui monte sur la montagne, pour le juif, le haut de la montagne, c'est toujours le Sinaï. S'asseoir, on parle de la chair de Moïse parce que l'enseignant est assis. Il ouvre la bouche comme Moïse, on parle de la bouche de Moïse qui parlait à Dieu, à bouche à bouche. Il va énoncer la loi nouvelle. Alors en plus, Matthieu va pousser le charme de ce rapprochement jusqu'à mettre 5 grands discours de Jésus dans son évangile. Moïse a écrit combien de livres ? 5 livres. Les 5 livres du Pentateuch. Donc il y a plein de références. Jésus comme un nouveau Moïse. Quand Jésus... Je vais vous raconter l'histoire, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, d'une foule. Ils sont dans le désert. Ils ont faim. Le personnage arrive et va prier Dieu et tout le monde va être nourri d'un pain qui vient du ciel. Là, je suis en train de vous raconter Jésus dans la multiplication des pains. Vous voyez comment ça fonctionne. La figure, c'est un événement historique. Ne cherchons pas, et c'est ça que je tenais à vous dire, dans l'Ancien Testament, je vais être obligé d'accélérer, ne cherchons pas dans l'Ancien Testament des gens qui annoncent immédiatement le Christ, ils ont leur consistance propre. Moïse a sa consistance propre, il est intervenu dans l'histoire. David a sa consistance propre, il est intervenu dans l'histoire. Nous, comme chrétiens, on dit on cherche des preuves dans l'Ancien Testament. Ne cherchons pas d'abord des preuves. Voyons comment Dieu est intervenu. Prenons le temps de voir l'histoire de Moïse, de voir l'histoire de David. Et en entrant dans l'histoire de Moïse, en entrant dans l'histoire de David, alors on va entrer dans quelque chose qui habitera Jésus, qu'on retrouvera avec Jésus. Parce que Jésus porte en lui toutes ces figures dans l'Ancien Testament. Vous voyez ? Il y a une histoire. Dieu parle dans une histoire. Il s'engage dans une histoire. Aucune figure n'est réductible à l'autre. Moïse, ce n'est pas David. David, ce n'est pas Salomon, etc. Et en même temps, chaque figure se renvoie l'une à l'autre. Il y a comme un progrès, petit à petit, évidemment, jusqu'à ce que ce ne soit plus la figure, mais la réalité, c'est-à-dire Jésus. Quand on dit une figure, dans l'Ancien Testament, on parle d'un personnage réel dont l'histoire apporte quelque chose de singulier. Il est nécessaire, mais je conclue sur ce passage de l'Ancien au Nouveau Testament, il est nécessaire de méditer l'Ancien Testament si on veut connaître le Christ. Souvenez-vous, pour reconnaître que Jésus était ressuscité, Jean voit le tombeau vide, ça ne lui dit rien, ce n'est pas une preuve, un tombeau vide. Il y a des tombeaux vides parce qu'ils ont été pillés. Mais il se souvient des Écritures. Oui. Et pareil pour les disciples d'Emmaüs. Ils ne reconnaissent pas Jésus, Jésus parcourt les Écritures. Saint Jérôme dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Hein, il faut lire les Écritures, et il faut notamment à travers ses figures, pour que le Christ soit accueilli pour ce qu'il est, le Fils de Dieu, Messie, Fils d'Israël, Sauveur. Alors, je vais maintenant aller plus rapidement. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est... ça fait peut-être, voilà, peut-être un peu beaucoup, mais vous noterez les questions s'il y en a. Du nouveau, voilà, on est passé de l'Ancien au Nouveau, maintenant du Nouveau à l'Ancien Testament. On ne peut pas vider l'Ancien Testament de sa substance. Et la question est gravissime, elle est capitale pour la lecture des Écritures. Les chrétiens étaient très marqués par cette idée que l'Ancien Testament était là uniquement pour apporter des preuves de la divinité du Christ. Ça a vidé l'Ancien Testament de son sens. Et ça nous a donné une approche de la foi qui n'était plus du tout historique, une approche de la foi verticale. Il y a des vérités, on les croit, c'est tout. Alors le XXe siècle, l'exégèse au XXe siècle, la théologie au XXe siècle, avec des gens comme le père de Lubac, le père Danielou, nous ont aidés à reprendre conscience que Dieu entre dans une histoire. Et c'est très important pour nous, et c'est très rassurant, parce que si on est dans une histoire, chacun de nous peut s'insérer dans cette histoire. Par la liturgie, par l'écoute de la parole, par la conversion, on sait que tout n'est pas joué en un seul coup. Hein. C'est une vision plus islamique, hein, de dire, il y a la foi, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Tu crois ou tu ne crois pas. Chez les chrétiens et les juifs, nous savons que nous sommes dans une histoire. Et ça veut dire aussi que nous ne rejetons pas l'Ancien Testament, mais nous lisons, et l'Église le fait depuis le 1er siècle. On voit Jésus lire les Écritures à la synagogue, et les premiers chrétiens ont fait pareil. Voilà, on ne peut pas vider l'Ancien Testament de sa substance. Mais il y a un danger inverse. Celui qui reviendrait à dire, eh bien, puisque l'Ancien Testament, les figures, les textes d'Ancien Testament ont une consistance, ont une sorte de réalité, eh bien, tout est dit dans l'Ancien Testament et Jésus ne fait que accomplir un programme déjà marqué dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui vous disent ça. Regardez, dans tout l'Ancien Testament, on voit déjà ce que Jésus a vécu. Ça, c'est un danger qu'on trouve aussi beaucoup actuellement. Le Nouveau Testament, qui serait la simple réalisation de ce qui était prévu dans l'Ancien. Et je le vois, si je vous pose la question, quelle est la différence entre un juif et un chrétien par rapport au Messie, par rapport au Christ ?
Les juifs, ils attendent toujours un Messie.
Et le chrétien ?
Ils attendent son retour.
On attend le retour.
On attend le retour.
La parodie de le retour.
Alors, eux, ils attendent la venue du Messie. Et nous ?
Son retour.
On attend son retour. C'est bizarre parce qu'en général, la réponse, c'est nous, on croit qu'il est venu. C'est ce qui est vrai aussi. Hein. C'est vrai aussi. Alors, donc c'est bien, vous avez habilement évité le piège que je vous ai tendu, mais je pense que le piège fonctionne quand même parce qu'on a quand même dans la tête l'idée que les Juifs attendent le Messie, nous croyons qu'il est venu. Sous-entendu, il y a des annonces précises du Messie, on voit bien en lisant les évangiles que toutes ces annonces, elles sont réalisées. Voilà. Ça voudrait dire que Jésus ne fait qu'accomplir un programme écrit à l'avance. Voilà ce que fera le Messie. Il naîtra à Bethléem, ce sera ceci, il y aura la passion, il y aura, voilà. Jésus met en œuvre un programme. Or, le problème, c'est que Jésus est Christ, il est Messie dans un sens qui excède, qui va bien au-delà de ce que prévoyait l'Ancien Testament. On a besoin de l'Ancien Testament pour reconnaître Jésus, comme je vous l'ai dit abondamment, parce qu'il vient comme mener une histoire à son accomplissement, à sa plénitude, mais il y a une totale nouveauté qui, en retour, va nous permettre de comprendre l'Ancien Testament avec une profondeur qu'on n'imaginait pas. À tel point qu'on va voir, quelquefois, les évangélistes quasiment inventer des citations qui n'existent pas dans l'Ancien Testament. Hein ? Il sera appelé Nazoréen, il n'y a aucune référence. Alors on renvoie Netzer, hein, dans Isaïe 42 ou 49, on voit, voilà, hein, on sent qu'il y a une espèce de plénitude du Christ. Alors, on peut ajouter aussi qu'il y a la littérature intertestamentaire qui s'ajoute, voilà. Mais il y a évidemment des textes très clairs, on le voit chez saint Matthieu, aussi chez saint Luc. Tout ceci arriva afin que s'accomplit la parole du prophète. Donc, c'est les annonces, d'accord, mais on voit que Jésus excède hein, quelque chose. Non pas parce qu'il dit ben, finalement les annonces, c'était pas ça, c'est bien ça, mais avec un niveau de profondeur, évidemment, s'il nous révèle Dieu Trinité, s'il nous révèle la plénitude de la profondeur de Dieu. Hein, l'Ancien Testament, les Juifs avaient par exemple une attente beaucoup plus nationale et politique hein, de la venue du Messie. Jésus assume ce qu'il y a de bon et de positif dans cette attente, mais il la purifie, il la fait porter à un niveau tout à fait nouveau. Il y a une redéfinition du concept de Messie avec le Christ. Une redéfinition. Il y a un texte de la commission biblique qui dit qu'il faut faire très attention à ce sujet. Jésus ne se contente pas d'appliquer un programme. Il redéfinit, notamment pour les Juifs, il était très choquant d'imaginer que le Messie puisse souffrir, hein, être conduit sur la croix. Pour ça qu'ils ont beaucoup de mal. Et c'est lui qui va mettre ensemble deux lignes de l'Ancien Testament qui n'allaient pas de soi. D'un côté le Messie et de l'autre côté la figure du serviteur souffrant d'Isaïe. Donc les Juifs n'imaginaient pas que ce serait le Messie qui serait le serviteur souffrant. Et Jésus montre qu'il est à la fois le très saint et en même temps il va porter sur lui la malédiction de l'homme pécheur. Donc ça c'est complètement nouveau. Voyez. Donc il y a véritablement une nouveauté du Christ. On a besoin. S'il n'y a pas l'Ancien Testament, on ne peut pas accueillir le Christ, on ne peut pas le reconnaître. Et l'Ancien Testament nous prépare, nous donne le vocabulaire, le langage, la profondeur, l'engagement de Dieu. Mais avec Jésus, il n'y a comme une espèce d'ouverture parfaite. Jésus est vraiment la clé hein, qui permet de comprendre les Écritures. C'est pour ça que les Écritures se terminent par le livre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, quel est le centre de l'Apocalypse? Ah, c'est peut-être pas facile comme question. Quel est ça tourne autour de quoi, l'Apocalypse? Quel est l'élément décisif de l'Apocalypse?
Le retour du Christ,
l'Antichrist. Le retour du Christ, l'Antichrist. Alors, saint Jean le dit au début, c'est la mort et la résurrection du Christ qui juge l'histoire, qui relie. C'est comme si on se mettait entre le Golgotha et le tombeau du Christ et on dit là, on va relire toutes les Écritures à la lumière de la passion du Christ. Un peu comme une espèce d'impact dans l'histoire de l'humanité. Hein, il est l'agneau immolé. Qui peut ouvrir le livre des Écritures? Et je pleurai très fort, je vous ai mis les citations, et je pleurai très fort de ce que personne ne puisse ouvrir le livre aux sept sceaux. Saint Jean qui pleure, Saint Jean le témoin, qui va ouvrir les Écritures? Il y a une voix dans le ciel qui dit « ne pleure pas ». Il a remporté la victoire, l'agneau. Le Christ, l'agneau de Dieu. D'ailleurs, on voit Jean-Baptiste qui montre l'agneau, et l'agneau, il est sur le livre ouvert. C'est l'immolation, c'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. C'est ça qui est le sens de l'histoire. C'est la rédemption. C'est Dieu qui sauve l'homme. Et c'est là le sens des Écritures. Donc, les pères de l'Église, ce passage de l'Apocalypse, je vous ai mis Apocalypse 5:5, il faut vraiment que vous le lisiez, que vous regardiez le passage. Jésus est planté au cœur de l'histoire et il va relire toute l'histoire d'Israël. L'Apocalypse reprend toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Donc il ne faut pas dire que l'Apocalypse c'est l'annonce des catastrophes à venir. Non, l'Apocalypse c'est comment c'est l'impact de la mort et de la résurrection du Christ sur toute l'histoire. Voilà. Donc c'est là qu'on passe du Nouveau Testament à l'Ancien, eh bien, le Christ nous révèle l'unité des Écritures, hein, l'unité de la lecture des Écritures, dont il donne comme la clé. On peut dire que sa mort et sa résurrection, c'est la clé qui ouvre le sens des Écritures. Et on va relire tout l'Ancien Testament à la lumière du Christ ressuscité. Cette approche, où Jésus apparaît comme la plénitude de la révélation, caractérise toute l'exégèse chrétienne. Elle a trouvé son déploiement dans ce que l'on appelle l'exégèse des pères de l'Église. Ils partent de l'événement du Christ ressuscité et ils reprennent l'histoire de l'Exode. Et ils voient comment dans les événements de l'Exode, par exemple la manne, le don de la manne, c'est déjà l'annonce de l'Eucharistie. Parce que Jésus leur en a révélé le sens caché. Alors, j'en arrive à l'exégèse des pères de l'Église. Là, je vais simplement lire le texte. Je vais moins commenter que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Voilà, on appelle les pères de l'Église les auteurs chrétiens des premiers siècles. Il y en a qui connaissent les pères de l'Église? Citez quelques noms.
Augustin.
Jean Chrysostome. Thomas d'Aquin. Alors, Thomas d'Aquin, c'est le Moyen-Âge. C'est les auteurs du Moyen-Âge. C'est 1000 ans après. Origène, très important. Je vais en parler tout de suite. Jean Chrysostome. Irénée.
Saint-Ambroise.
Voilà, vous avez déjà une très bonne liste. En plus, vous avez cité des exégètes. Donc, c'est très bien. La plupart sont exégètes. Les pères de l'Église, c'est des commentateurs de l'Écriture qu'ils lisaient. Ils lisaient les Écritures non pas à des fins d'érudition, mais à des fins essentiellement pastorales, pour nourrir le peuple chrétien, mais aussi à des fins missionnaires, dans un but d'apologétique. Quand les chrétiens se faisaient persécuter, il y avait des gens comme Saint Justin qui disaient à l'empereur « Attends, la foi chrétienne, c'est pas des fous. Hein, c'est au contraire très intelligent, je vais te le montrer. Hein. » Donc voilà, il lisait l'Écriture pour montrer la vérité de la foi. Faire connaître l'Évangile au monde païen dans lequel il vivait. Alors on voit, il y a des pères de l'Église en Orient, chez les Grecs et les Latins. Hein, c'est un peu tout le bassin méditerranéen. Ils étaient imprégnés de la lecture des Écritures et ils ont su les lire dans leur unité. Hein, donc je vous ai montré abondamment que les Écritures, avec cette logique de promesse-accomplissement, constitue véritablement une unité où on passe de l'ancien au nouveau à travers ces accomplissements successifs. Cette unité correspond à l'unité du dessein de Dieu. Hein. C'est l'exégèse des pères de l'Église met en œuvre une lecture organique et dynamique des Écritures qui repose sur le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein. Il s'agit de montrer comment l'Ancien Testament annonce le Nouveau et comment le Nouveau accomplit l'Ancien, et en révèle le sens. Alors, il y a une petite phrase de saint Augustin, un distique, qu'il est important que vous la connaissiez, parce qu'elle est très, très caractéristique et permet de comprendre le rapport entre les deux. Je cite, « Le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien », donc il y avait déjà la figure du Christ qui était cachée derrière le visage de David, de Moïse, de Salomon, de Jonas. Quand on gratte un peu, on voit déjà les traits du Christ. Le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien, et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Donc tout le sens de cette histoire d'Israël trouve un nouvel éclat dans le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Ouais. Dieu s'est révélé dans une histoire, celle que nous rapportent les Écritures. Il est indispensable de les lire au niveau du sens, c'est très important, au niveau du sens littéral. Qu'est-ce que c'est que le sens littéral? C'est quand on lit l'histoire de la libération d'Égypte, on va dire « Ah, ben c'est merveilleux, ça montre que Dieu nous libère de nos esclavages ». C'est profondément vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'on va lire le livre de l'Exode. Dieu est intervenu auprès de son peuple Israël, il l'a libéré d'Égypte. C'est déjà l'histoire de salut. On ne va pas tout de suite chercher une leçon, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le peuple était esclave, Dieu l'a libéré. Sens littéral. On lit le texte, ce qu'on appelle aussi le sens historique. Et c'est à travers le sens littéral ou historique, à travers les événements historiques, qu'on va découvrir le sens spirituel. Sinon, on est dans ce qu'on appelle une gnose, juste une pensée. Voilà. Chez les pères de l'Église, ce qu'on appelle le sens littéral, quand ils disent le sens littéral, en fait, c'est tout l'Ancien Testament. Et le sens spirituel, c'est le Christ. C'est ce que dit Origène. Finalement, le sens spirituel, c'est le Christ lui-même. Alors, la méthode de lecture des Écritures qui les caractérise, c'est une méthode qu'on appelle la typologie. Alors, vous avez parlé d'Origène. Il y en a quelques-uns qui connaissent Origène ? Pas Origène, Origène. Origène, c'était un Égyptien qui vit au IIIe siècle et un génie qui a édité les Écritures dans les langues, les différentes versions grecques, le latin, l'hébreu. Il est allé voir des rabbins. Donc, une grande connaissance des Écritures. Et il nous montre comment, dans l'Ancien Testament, il y a justement ces figures ou ces types, en grec « tupoi », ça donnait les types, de réalité à venir. Et chaque figure porte en elle incoativement, de façon naissante, de façon encore cachée, une réalité qui se révélera pleinement dans le Christ. Souvent, pour expliquer le rapport entre le type et l'antitype, l'antitype, c'est le plein, vous prenez un moule pour une médaille, l'Ancien Testament donne le creux, le moule, voilà. Et le Nouveau Testament donne le plein. Ouais. C'est une image. Il y a ses limites, mais ça permet de comprendre. Le type, c'est dans l'Ancien Testament. Des types du Christ ou des figures du Christ. Voilà. Et le Nouveau Testament est comme préparé par ces types ou annoncé par ces types. Cette approche hein, de la lecture typologique, on la trouve dans le Nouveau Testament. Saint Paul, par exemple, voit en Adam une figure du Christ. Hein, tupos, j'ai mis la référence. Pour Saint Pierre, le baptême est annoncé. Hein, donc le baptême, c'est l'antitype, hein, qui est annoncé par le déluge. Et Jésus lui-même a recours aux figures de l'Ancien Testament pour parler de son œuvre rédemptrice. Il parle de Jonas. Jonas qui a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Ainsi, le Fils de l'homme, hein, doit être 3 jours aux entrailles de la terre, 3 nuits aux entrailles de la terre. Voilà. Le serpent de bronze, de même que le serpent de bronze a été élevé dans le désert. Alors, vous allez me dire, en quoi le serpent de bronze annonce-t-il Jésus? On n'a pas le temps de voir ce soir, mais c'est passionnant. Après, on comprend, on dit, ben, bien sûr, le serpent de bronze, c'est une annonce de Jésus. C'est une figure de Jésus, hein, de façon très forte. Donc Jésus, quand il fait ce rapprochement un peu étonnant, ça prend une lumière extraordinaire. Le serpent de bronze en tant que tel, on va dire, ben, c'est un serpent de bronze. Mais voyez, les pères de l'Église, ils vont partir du Christ, ils vont relire l'histoire du serpent de bronze. Et dire, ah mais oui, mais là on comprend des choses qu'on n'aurait pas comprises autrement. Voilà. Et puis Moïse et la manne, hein, comme je disais tout à l'heure, qui est aussi un type de Moïse, de Jésus, qui va donner l'Eucharistie. Voilà, alors je vous ai mis un mot sur l'exégèse allégorique, la différence entre la typologie qui s'appuie sur l'histoire et l'allégorie. L'allégorie, c'est davantage, nous renvoie plutôt à des idées, hein, des grands principes. Voilà, la sortie d'Égypte, ben, c'est l'image de notre libération spirituelle. Voilà, conclusion. Donc vous voyez que j'ai été vraiment raccourci beaucoup la deuxième partie. Nous nous inspirerons de la démarche des pères de l'Église, non pas en lisant leurs commentaires des Écritures, ce que je vous recommande de faire, mais en lisant les Écritures à leur manière, en voyant comment se correspondent et se répondent Ancien et Nouveau Testament. Nous nous intéresserons bien sûr aux figures du Christ les plus caractéristiques de l'Ancien Testament, les personnes qui, par leur histoire, ont annoncé la venue du Fils de Dieu en notre chair, son onction messianique et son œuvre rédemptrice. Voilà. Vous avez passé le plus dur. Félicitations. Est-ce qu'il reste une ultime question ? Ça va ? Vous mettez vos questions sur un petit bout de papier comme ça, et la prochaine fois, j'espère qu'on nous fera commencer à 9h, là on a commencé à 9h10, et on aura le temps d'aborder rapidement ces petites questions que vous avez. N'hésitez pas à les poser, ça aidera tout le monde. La prochaine fois, eh bien, je vous ai promis qu'il y aurait de l'aventure, nous suivrons Josué pour entrer en terre promise. Une question, oui. Ceux qui veulent y aller, n'hésitent pas, oui.
Est-ce qu'on a fait des liens entre la libération d'Égypte et la libération de Babylone?
Complètement. C'était l'événement fondateur qui fait que Israël s'est mis à espérer en sa libération. Et il y a des psaumes, par exemple, qui dit quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, le Jourdain revint en arrière. Alors, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer, mais là, ils vont passer le Jourdain. Et ils voient bien que l'événement de la traversée du Jourdain, c'est l'événement d'Égypte, mais qui est réitéré. Quand il y a un événement unique, on dit, bah oui, mais c'est arrivé une fois, mais ça ne peut pas recommencer. Mais ça, quand ça recommence une deuxième fois, et puis ensuite une troisième, on dit, c'est que vraiment, il y a une histoire. Voilà. Donc il y a tout à fait un lien entre l'Exode et l'exil. Le retour d'Égypte et le retour d'exil. Et tout ça, ça ira d'approfondissement en approfondissement, comme je disais tout à l'heure, promesse, accomplissement, nouvelle promesse, nouvel accomplissement, et ultimement, c'est Jésus qui passe par les eaux de la mort. Il parle de sa mort comme un baptême, donc il fait référence à la traversée du Jourdain, il va lui-même dans le Jourdain, et la résurrection, c'est on entre en terre promise. Et ça, on le verra la prochaine fois avec Josué.
Moi, c'est pas une bonne...
Allez, voilà, oui.
La prochaine,
oui, donc c'est Josué. Alors, c'est tout le livre de Josué, mais lisez les premiers chapitres de Josué. Voilà. La traversée du Jourdain, c'est par exemple les chapitres 3 et 4. Voilà.
Moi, c'est pas une question, mais oui. Quand j'étais dans une école chrétienne, oui. On avait le livre, le Nouveau Testament.
Oui.
On n'avait pas l'Ancien.
Ah ben bien sûr. Ah, l'Ancien Testament, on a été très mal à l'aise pendant longtemps parce qu'on cherchait uniquement des preuves de Jésus, mais on se rend compte maintenant qu'il y a quand même une histoire, qu'il y a quelque chose à nous dire.
Oui, c'est pourquoi on a beaucoup de temps, on avait plus quelques histoires, Noé, Adam, mais on n'avait pas du tout, quand vous avez dit, c'est une continuation.